Alors, on va continuer le fil de notre émission bien chargée avec le petit voyage au Québec nous a préparé Eddy. Donc, depuis plusieurs mois déjà, le Québec est en ébullition.
Donc, on en est à peu près à 120 jours de protestation, ce qui est énorme pour le Québec. Alors, je vais essayer de faire très court sans faire non plus du Antoine Decaune époque rapido. Mais ce qu'il y a fondamentalement d'intéressant dans ce mouvement, c'est en fait à quel point on constate un mouvement social qui s'appuie sur des bases idéologiques de ce qu'est en fait une lutte sociale radicalement différente de ce qui se passe en France. Comment tout ça commence? Un petit retour loin en arrière. À la fin des années 40, il se passe au Québec ce qu'on va appeler la grève de l'amiante, qui va être un énorme mouvement social où les ouvriers francophones, donc les plus pauvres des Canadiens, demandent à travailler dans de meilleures conditions et à être mieux payés. À partir de ce moment-là, ça va remettre en cause en fait tous les fondements de l'État canadien qui associait traditionnellement la gestion de la société entre l'État et l'Église, puisque dans ce mouvement social, le haut clergé va rester solidaire de l'État et la base va soutenir le mouvement social. Donc à partir de ce moment-là, il va y avoir un début de grands débats politiques qui vont remettre en cause tout ça pendant les années 50 et aboutir dans les années 60 à ce qu'on va appeler la révolution tranquille, c'est-à-dire cette espèce de culture de co-gestion qui entérine le fait que l'Église est séparée de l'État et qu'on met en place un dialogue social avec des partenaires reconnus, légitimes, dans un esprit de dialogue. Donc, là où c'est très intéressant, c'est que la question de l'éducation était déjà un des terrains les plus privilégiés, d'ailleurs comme en France pendant la Troisième République, pour voir ce qui était ce conservatisme résiduel de la société canadienne du fait de la proximité entre l'État et l'Église. Puisque jusque à cette fameuse époque de la Révolution tranquille, jusqu'au début des années 60, l'enseignement supérieur est confié à l'Église. C'est seulement, que je vous dise pas de bêtises, au tout début des années 60, que le, avec la réforme Parent, qu'il y a le ministère de l'Éducation nationale qui voit le jour. Sachant que l'État du Québec, surtout dans cet héritage de la grève de l'amiante, garde cette dimension beaucoup plus sociale, puisque les Québécois francophones donc sont les dominés de la société canadienne. À partir de ce moment-là, il y a cette espèce de modèle social à l'américaine qui va exister au Québec et qui, dans lequel on retrouve évidemment une filiation avec les cousins français. Pardon, je viens de bugger. En 76, le Canada ratifie le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et ça, c'est très intéressant. L'article 13 stipule que l'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés, notamment par l'instauration progressive de la gratuité. Et voilà comment, après avoir être arrivé au pouvoir, sans avoir remis en cause le prix des droits à l'université, le gouvernement donc de Monsieur Charest va remettre en cause en fait cet idéal de gratuité et va refaire apparaître en fait un clivage politique qui avait disparu au Québec, puisque dans tout le mouvement social étudiant aujourd'hui, c'est là où je veux en venir sur la différence avec le mouvement social à la française, il y a cette tradition très légitimiste de dire au pouvoir québécois la question c'est pas de changer le monde, la question c'est de respecter la règle telle que vous l'avez signée. Donc à partir de ce moment-là, on va voir une attitude de l'État qui va chercher à délégitimer ce mouvement, également en s'appuyant sur le droit, puisque le consensus paraît comme la base du contrat social québécois. C'est-à-dire que, par exemple, les manifestations sauvages, du fait de la charte québécoise qui autorise la manifestation, permet aux policiers d'arrêter des manifestants sur des motifs du code de la route. Ils marchent sur la route. Voilà, donc c'est l'ensemble du dispositif idéologique qui s'affrontent dans ce conflit-là. Pourquoi est-ce que ça touche à ce point-là la société? Déjà, je crois qu'on peut le dire parce que le Canada et le Québec ne sont pas encore dans une situation de crise et de précarité telle que l'Europe peut le connaître, par exemple. On voit que pour réussir à construire un mouvement social structuré, il faut déjà qu'il y ait certains capitaux culturels qui soient démocratiquement diffusés, et puis que les gens aient encore les moyens d'avoir confiance au lendemain et s'imaginent avoir des moyens de résistance, donc ne sont pas complètement soumis. Donc, il y a une crise qui a été été sur le papier un peu jugulé. Le problème de l'augmentation de ces droits, qui est de l'ordre du millier de dollars, c'est précisément qu'en fait, ça interdit moins l'accès aux études que le seuil et le degré d'endettement de ceux qui arrivent sur le marché. Et voilà pourquoi une grande partie de la société québécoise et même des spécialistes, des instituts, etc., de la macroéconomie remettent en cause cette augmentation des droits parce que ça crée une bulle spéculative comme ce qu'on a pu connaître avec les Américains qui se sont endettés pour acheter leurs appartements, etc. À un moment, on continue de faire venir des étudiants, mais qui sont complètement endettés. La seule chose qu'ils vont pouvoir faire une fois qu'ils seront salariés, c'est remboursé. Alors la première fois que le gouvernement Charest a voulu remettre en cause cette gratuité, ça a été en augmentant justement le seuil d'endettement possible. Hein, on voit comment en fait cette question des droits à l'université, c'est en fait tout un enjeu de marché énorme pour les produits financiers. À partir de ce moment-là, il y a eu toute une vague, tout un discours très rationnel, très raisonnable des conservateurs et des libéraux qui a été de dire, comme on l'évoquait tout à l'heure, au bout d'un moment, est-ce que les Québécois sont responsables et sont capables de considérer le prix nécessaire à payer pour les services publics? Et donc, à partir de ce moment-là, c'est les universités elles-mêmes, certaines grandes écoles, etc., qui ont commencé à augmenter un petit peu le prix en ouvrant des MBA, des choses qui sortaient de l'encadrement de l'enseignement habituel et qui forcément coûtaient plus cher.
Pardon. Excuse-moi, qu'est-ce que tu appelles MBA ?
Alors c'est les masters business, je sais plus exactement ce que c'est, mais voilà, c'est le sigle renvoie à tous les grands diplômes d'économie et de marketing, etc., qui sont les droits d'entrée en fait dans l'économie internationale et voilà qui permettent en fait voilà qui sont le label d'entrée dans une certaine bourgeoisie internationale voilà sur l'économie très très rentable, etc. Voilà, c'est le grand management. C'est d'ailleurs en France des choses sur les. C'est, alors là, on peut parler de compétition. Hein, on peut voir comment des institutions comme Sciences Po, par exemple, se sont alignées là-dessus, les SEC, etc. Il faut être compétitif. Là-dessus, si tu veux, il n'y a plus d'histoire de sectorisation. Là, c'est plus le problème à Montreuil, comment on gère les profs du quartier. Là, c'est toutes les bourgeoisies internationales qui, chacune, ont leur centre de formation, on peut dire, et trustent et font venir à eux les meilleures têtes, les meilleurs poulets aux hormones de chaque pays. Et peu importe, justement, hein, ça fait partie du parcours étudiant de celui qui va venir dans ce genre d'école, c'est qu'il n'a plus ni famille ni patrie. Hein. Il n'a plus que la logique du capital, la tendance, ses profs, etc. Enfin bon, voilà. Donc la position du gouvernement en 2003, le Parti libéral du Québec, donc de Charest, arrive au pouvoir sans remettre en cause ce principe-là. Ensuite, ça va gratter un peu. Il va se dire, on peut demander quand même raisonnablement en 2007 une augmentation de $50 par semestre. Donc on voit que là, il n'y a pas de problème. Et puis c'est ça. C'est là que, on va laisser les universités, l'université McGill, l'université de Montréal, voilà, mettre en place des droits d'entrée beaucoup plus élevés. Qu'est-ce qui se passe en fait? On s'aperçoit que du coup, on peut compter quasiment le diplôme en fonction du nombre d'heures de travail qu'il demande. Donc c'est là qu'automatiquement il y a un effet une espèce de plafond de verre. Parce que finalement, pour l'université qui va rester dans l'esprit du service public, etc., les étudiants vont être de moins en moins. Il faut savoir qu'il y a un étudiant sur deux au Québec qui travaille à plein temps, enfin qui travaille en tout cas énormément qui n'est pas aidé par ses parents. Voilà, donc qui travaille, et parmi eux, il y en a encore la moitié qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc à partir de ce moment-là, on le voit très bien dans les universités françaises, on continue de donner des diplômes, parce qu'il faut donner des diplômes. En même temps, les étudiants n'ont plus vraiment les moyens de s'investir, donc le contenu et l'investissement même que l'État fait dans ses diplômes baisse, et à côté de ça, eh ben on s'en fout, celui qui veut avoir réellement un avenir, entre guillemets, hein, là on parle de leur logique, mettra le prix. Et en fait, de toute façon, derrière, n'a plus le choix. Hein. Il peut pas changer d'avis, etc. Il va avoir des intérêts calculés sur son prêt à partir du futur salaire qu'il est censé avoir. Donc c'est très très violent quand même psychologiquement. Ça veut dire que voilà, tu fais l'ESSEC, tu dis que tu vas devenir manager. A priori, ton salaire c'est tant, donc ton intérêt c'est tant, et tu vas commencer à peine ton diplôme en main à payer tant. Donc c'est, on voit ça pour les diplômes de médecine aux États-Unis, etc., où on voit dans beaucoup de séries américaines les gens qui expliquent où ils en sont du remboursement de leurs études. C'est leur premier poste budgétaire avant de s'acheter un appart ou quoi que ce soit. Je sens qu'il faut qu'il aille beaucoup plus vite. Hein.
Non, mais c'est génial.
Tu peux même parler plus tranquillement.
C'est génial, tu vas super vite déjà.
On n'a pas entendu tout ça à la télé, c'est génial.
Non, mais en fait, c'est un puits sans fond cette question. On pourrait parler de cette lutte-là comme d'une espèce de fait social total, parce que ça pose toutes les questions. Rien que si on prend le thème de le nom de Printemps érable, c'est très marrant parce que c'est un truc qui montre déjà l'ancrage de cette lutte dans la francophonie canadienne, parce que évidemment ça marche pas du tout en anglais. Je sais plus comment on dit érable en anglais, mais j'ai vérifié avec un pote qui connaît les mots et tout. Il m'a dit que ça marche pas. Et c'est la même construction un peu médiatique. En fait, on voit qu'il y a cette espèce de complexe de la société occidentale de sentir que le mouvement n'est plus de son côté, que le changement, c'est peut-être pas ici, même si c'est maintenant, qu'on se montre comme ça, une espèce de grand fantasme en voyant le Printemps arabe. On va pas revenir sur la première émission qu'on a fait ensemble, mais c'est quand même un gros fake, un truc vraiment adapté pour mettre des vidéos en ligne sur YouTube et le partager, c'est ça cette révolution-là. Et ben là, c'est un peu pareil, quoi. L'Occident se dit, on peut être blanc et urbain
et faire de la poésie.
Comment ?
Et faire de la poésie.
Oui, aussi.
Printemps érable. Ouais.
C'est magnifique, le printemps érable. Ouais. En plus, ça colle aux doigts. C'est vraiment. C'est exactement ça, quoi. Non, mais pour Charest, c'est ça le problème. C'est qu'on va voir dans le petit montage sonore qu'on va envoyer tout à l'heure. Ah, c'est vrai qu'en fait, je t'ai squeezé. Ça devait être l'intro.
Pas du tout. C'est moi qui me suis squeezé toute seule et on le mettra à la fin. Ne t'inquiète pas.
Vous verrez. Il y en a qui s'auto-radicalisent. Toi, tu t'auto-squeezes.
c'est une reprise de bref. Je vous invite à aller sur Internet voir tout ce que ce mouvement-là a fait, parce que on est moins dans la question de savoir je soutiens pas. C'est pas la question. Mais c'est de comprendre qu'aujourd'hui, l'enjeu pour exister, pour un mouvement social, c'est de savoir s'il est broadcastable, comme on dit, quoi. Est-ce qu'il est capable en 6 minutes de faire un truc partageable sur Facebook et vraiment marrant. Donc là, il y a cette logique-là. Les Québécois, pour que leur mouvement soit relayé, ils s'adressent à la francophonie. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des spots de bref pour expliquer les différents axes de leur lutte, quoi. Enfin bon. Du coup, arrive Lynn Beauchamp. Vous allez, en plus, c'est magnifique, tous les noms de, il y a une certaine Lisa Jolicoeur du côté des étudiants, c'est magnifique.
La poésie.
C'est merveilleux. Donc, ministre de l'éducation, du loisir et du sport, on pourrait dire finalement ministre du dressage, qui, après avoir rejeté donc toute discussion avec les étudiants qui protestent d'avance contre les droits, entame des premières discussions avec les responsables des enseignants qui demandent un moratoire. Donc au début, on se dit, on va faire ça à la québécoise, on va la jouer tranquille, on va discuter, et puis ça, on va fâcher personne. Sauf que le truc va être très simple. En fait, il y a trois parties, trois syndicats étudiants, la FEC, la FUC et la... Non, mais c'est là qu'ils sont
la
bons.
Poésie, c'est ça
qu'ils
disaient.
C'est là qu'ils sont bons. Et la classe. La classe étant dédicace d'ailleurs à mes amis étudiants à l'époque où j'étais étudiant qui appelaient la fac d'ailleurs. Je trouve ça rigolo. Bon, voilà, c'est une aparté. Ils écoutent pas. De toute façon, maintenant, je crois qu'ils sont de droite. Mais bon, c'est pas grave. Donc.
La classe, tu disais?
Ouais, la classe, qui est une espèce de confédération de différentes organisations et qui est clairement, la plus marquée politiquement dans ce qu'on pourrait appeler la gauche. Mais on peut vraiment pas transposer, parce que finalement, pour être crédible, une organisation syndicale en France doit montrer qu'elle sait jouer de ses classiques de référence renvoyant vraiment à la lutte, à ces choses-là, etc. Sous certaines nuances, mais pour celui qui ne le fait pas, c'est aussi son créneau de se démarquer en étant celui qui ne le fait pas. Si on prend l'exemple de la CFDT, par exemple, c'est
une loi sur Alain. Mais Nadia, tu dis rien.
C'est-à-dire que leur légitimité à dire qu'il n'est plus temps de parler de lutte de classe, c'est qu'ils l'ont fait avant, quoi. Non, on peut pas comme ça arriver en disant nous on est les gentils, ou sinon c'est la CFTC. Mais enfin, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Au Québec, c'est un peu et tout le monde un peu dans le moule de la CFTC, avec cette tradition comme ça, ce poids de l'Église catholique, etc. On n'est pas dans le conflit. Faut qu'on discute, etc. Faut être raisonnable. Alors on sait ce qu'il y a derrière raisonnable. Très souvent, c'est il faut être rigoureux. Et puis une fois que t'as pas de rigueur, voilà, derrière c'est moi ça va et toi tant pis. Ouais. Donc sur la négociation, je vais vous décrire les différentes positions du gouvernement pour expliquer pourquoi ils ne voulaient pas discuter avec les étudiants. Les étudiants étaient solidaires, donc les trois syndicats faisaient bloc. Donc ils se sont dit, la classe, c'est là qu'il faut taper. Sachant que dès qu'il y a eu, enfin, ne te perds pas, et dit La grève n'a pas encore commencé à ce moment-là. Donc, premier argument.
Mais
le gouvernement
parle,
a déjà débattu de la... Oui, je me parle à moi-même, mais parce qu'il y en a 3-4 dans ma tête.
En direct, c'est compliqué. Donc,
on est plus chronologiquement, au départ, donc, cette fameuse Lynn Beauchamp dit le gouvernement a déjà débattu de la question de la hausse des droits de scolarité lors de la rencontre des partenaires de l'éducation. C'est ce que je disais tout à l'heure, les professeurs, le moratoire, tout ça. Deuxième argument. Bon, parce que là, ça s'est vu que c'était pas, que ça passait pas. Donc, attendez, excusez-moi. Donc, le deuxième argument qui a été donné.
Deuxième bug.
Ouais, deuxième bug, mais.
En même temps, avec un ordinateur, on est obligé de bugger.
Et voilà, et du coup, j'ai perdu la suite des choses.
Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais les silences ne sont pas forcément des bugs, quand même.
Non, surtout à la radio.
Ça fait partie de la poésie, ça.
Il y a tout le monde qui tape dans son poste en se demandant ce qui se passe. Non, non, ne vous inquiétez pas, je vais le retrouver très vite. Et pourquoi je ne le retrouve pas,
c'est vous êtes bien sur Radio Libertaire.
Mais non.
Deuxième argument.
Donc, le deuxième argument, mais où elle est passée, cette
dame? Lynn Beauchamp.
C'est horrible. La liste était tellement bien que... Ah, mais non, voilà. Et excusez-moi. Donc, le deuxième argument. Le ministre de l'Éducation, donc Lynn Beauchamp, trouve difficile d'un point de vue personnel, comme si on avait quelque chose à faire de son point de vue personnel, de rencontrer le co-porte-parole de la classe. Voilà, c'est parce qu'eux, ils sont trop politiques, etc. Bon, là, on se dit, bon, il y a quand même un problème. Sauf que l'argument est bon, parce qu'ensuite, ils vont dire, mais en fait, il n'y a pas de syndicat étudiant. Parce qu'en fait, dans les lois, on n'a pas reconnu qu'il y avait des syndicats étudiants. Alors là, il y a des juristes progressistes qui ont dit « Oui, mais attention, quand les syndicats ont existé, ils ont existé forcément avant le début des lois. » Enfin, c'est pas l'État qui, par la loi, a dit « Bon, bah maintenant, créer des syndicats. » Ça a toujours précédé. Et donc, voilà, tout ce truc qui, finalement, fédère et fait se rencontrer toutes les différentes parties de la société et pose à peu près toutes les questions. Troisième argument, parce que les deux premiers, ça n'avait pas été top. Le gouvernement ne discutera pas avec des associations étudiantes prenant la gratuité scolaire. Voilà pourquoi les syndicats étudiants ne lâchent pas cette histoire du pacte machin de 76, parce que c'est un traité que le Canada a signé. Mais évidemment, comme c'est la crise internationale, que les Européens sont en train de coûter des milliards à tout le monde, que sinon on va être acheté par la Chine, c'est pas le moment de parler de gratuité. Il faut bien que tout le monde mette la main à la poche. Sous-entendu, l'argent de l'État, c'est l'argent de l'État. C'est pas déjà celui que tu lui as donné une fois. Mais bon. Quatrième argument. Le gouvernement ne discutera pas avec des associations ne condamnant pas la violence. Alors là, ça c'est énorme. C'est-à-dire que la classe dit, là ça y est, le mouvement social a commencé, c'est un peu le bordel... Il commence à y avoir des black blocs. Alors des black blocs, là on est fin février, des black blocs au Québec, c'est délirant. Donc
balance des boules de neige.
Non, c'était sévère et tout. Mais en fait c'est très intéressant parce que à ce moment-là tous les médias se sont autorisés. Et là ça vous trouverez des scènes d'anthologie sur Internet hein, pour un Français c'est vraiment à mourir de rire où le mec tape un scandale en disant ouais mais non mais vous avez pas le droit de faire des trucs comme ça. Moi une fois j'ai été bloqué sur le pont que vous avez bloqué machin. Je suis resté une heure, c'est absolument inadmissible. Et le mec en fait il s'excuse et tout. Je suis désolé, oui, mais bon, c'est pas nous tout le temps.
Qui râle contre un manifestant, ça ?
C'est le journaliste qui dit non, là, vous avez bloqué le pont, machin, qui apparemment est un pont super important à Québec. Et il lui dit non, parce que c'est arrivé déjà une fois, je suis resté bloqué une heure et tout, c'est vraiment un scandale. Enfin, bon,
et les manifestants s'excusent.
Et ben, c'est ça, c'est que les mecs, bon, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a une espèce de truc où l'État va toujours plus loin, ce qui fait que par solidarité et par respect, finalement, il y a tous les autres pans de la société qui deviennent solidaires d'eux, alors qu'ils sont jamais dans une logique de conflit. Et là, en fait, la classe dit statutairement, nous, on ne peut pas condamner les violences, parce qu'il faut que ça soit, on connaît ça à la CNT, il faut que ça soit chacun des syndicats qui décide, voilà, et les mecs, ils ont autre chose à foutre en Assemblée Générale que de voter pour ça. Ça, c'est une question que l'État se demande, c'est pas une question que les étudiants se posent. Et donc, voilà, on voit se mettre en place cette part de la lutte. C'est-à-dire que les étudiants vont refuser officiellement de parler avec les mots du gouvernement, parce que sinon ils sont coincés. Donc, sixième argument, le gouvernement reporte la rencontre des associations le 23 avril, puisque les trois associations refusent de rencontrer Lynn Beauchamp avant le congrès de la classe. Voilà, c'est tout le problème de ces saletés de syndicats qui ne veulent pas parler en leur nom, mais qui doivent prendre le temps d'aller voir les gens qui les ont mandatés. Voilà, non, on peut pas signer le tract parce que l'UR elle se réunit que dans deux semaines, etc. On connaît ça. Donc, voilà. À partir de ce moment-là, voilà comment on en arrive à la stigmatisation de la violence. Voilà comment finalement la position des enseignants va bouger, vont finir par les enseignants vont prendre parti. On va voir comment le 27 mars déjà, il y a 2300 enseignants malgré les menaces de sanctions qui vont apporter leur soutien avec un manifeste des professeurs contre la hausse, comme ils vont être réprimés, etc., etc. On arrive au 59e jour de grève avec 500 professeurs le 12 avril représentant les différents domaines d'études qui vont publier la déclaration « L'université contre la hausse ». Et là, ça va être repris par des milliers de professeurs, des intellectuels, des artistes, etc. Pourquoi ? Parce que finalement, l'État est mis en face du problème même de l'éducation. C'est que même les responsables des plus grandes universités, dès que ça balance du côté de l'éducation, et plus des administrateurs, disent « Mais le problème, c'est que nous, on ne peut pas condamner leur action parce que ils prouvent leur citoyenneté, ils s'inscrivent dans le débat social, on ne peut pas juste leur interdire. » Donc, on n'est pas, comme le disait les administrateurs des mêmes établissements universitaires au début du mouvement, dans simplement un enjeu de discussion entre l'usager et celui qui lui fournit le service. On est bien dans une question politique qui concerne l'existence et qui légitime l'existence des syndicats étudiants. Et donc voilà, on est solidaires. Donc après, j'en parlerai moins parce que de toute façon, mon temps à parti est en train de fondre et que c'est ce qu'il y a de plus disponible dans les médias. Mais après, il y a tout le folklore de la lutte des étudiants québécois qui ont choisi de manifester seins nus, etc. Voilà, toutes les différentes feintes qu'ils ont pu faire pour les espèces de carnaval, les trucs où ils se sont rendus devant la maison du Premier ministre parce que justement ils voulaient leur interdire de porter le masque, etc. Donc depuis, il y a eu demande de démission du ministre de l'Éducation. Il y a eu un barrage à l'Université du Québec en Outaouais, désolé les Québécois, le 16 avril, qui a poussé à l'action directe les syndicats enseignants qui ont refusé l'arrestation des étudiants. Bon, rassurez-vous, ils ont tous été serrés au bout du compte, hein, ils se sont fait embarquer à 200, voilà. Et ensuite, les tentatives de division du mouvement. Voilà, pour finir, donc je vais juste rappeler à peu près 5 dates pour ceux que j'ai totalement perdu. Donc le 20 février, le gouvernement québécois décide d'augmenter les frais de scolarité de 82% sur 7 ans. Ça, c'était avant que la grève ne commence, c'était la première négo. Ils avaient obtenu que ça soit étalé sur 7 ans. Les étudiants s'indignent et prônent la grève générale pour contester cette décision. C'est la naissance du printemps érable. Sachant que là, c'est plutôt la classe, donc les plus radicaux, mais ceux qui regroupent le plus d'étudiants qui vont demander ça. Les autres propose une grève limitée au 22 mars parce que le 22 mars, les trois principales organisations étudiantes en conflit avec le gouvernement québécois ont déposé 2 recours en justice contre la loi spéciale donc qui restreint le droit de manifester et prévoit de lourdes amendes contre les contrevenants. Et comme on dit en québécois d'ailleurs sur cette loi spéciale, je vous invite à aller sur le blog printempsérable.org avec cette expression, la loi spéciale, on s'en calisse. Voilà. C'est important de savoir qu'on a le droit de s'en calisser des lois. Donc, le 26 avril, le mouvement prend de l'ampleur. Ce sont maintenant près de 300 000 étudiants, sachant qu'il y a 400 000 étudiants au Québec. Donc, c'est vraiment chaud. On peut s'attendre à ce qu'il y ait quelques chômeurs un peu branleurs qui aiment le bordel qui se soient mis dans la rue, mais il n'empêche. Les manifestations se poursuivent, comme ici. Voilà. 3 mai, les négociations pour tenter de trouver une issue au conflit qui dure depuis 3 mois. Évidemment, à partir du moment où il faut négocier avec des gens qu'on ne veut pas rencontrer parce qu'ils ne sont pas légitimes, qu'ils n'existent pas et que voilà, c'est très compliqué, ça prend du temps, sont au point mort. Donc les manifestants font preuve d'ingéniosité pour attirer davantage l'attention et c'est là que ça va être le plus médiatisé. Voilà, les seins nus, les trucs de nuit, les trucs déguisés, etc. Le 22 mai, avec les 100 jours, cette grève dépasse donc la grève de l'amiante et devient le plus grand mouvement social québécois et fragilise le gouvernement corrompu, etc., de Charest, en croisant, et je vais conclure là-dessus, l'ensemble des luttes, puisque c'est exactement ce que vous disiez sur les Jeux Olympiques. Le gouvernement Charest a fait passer beaucoup de choses à partir de son plan Nord, qui était la promesse de l'exploitation des sous-sols canadiens, qui devait justement fournir sans fin de l'emploi aux Canadiens, jusqu'à ce qu'ils comprennent que ça fournissait de l'emploi, mais avant tout, ça fournissait de la main-d'œuvre aux entreprises privées, parce que c'était négocié sur des redevance très très faible auprès de l'État, donc pas, en gros pas d'impôts alors que c'est le territoire. Et puis alors là derrière c'est la fête, exploitation du pétrole bien sûr, mais évidemment le gaz de schiste, en veux-tu en voilà, etc., etc. Donc ce qui fait que c'est cette espèce d'aiguillon qui aurait pu passer comme une lettre à la poste avec les étudiants, ça a fait un point de crispation qui a réuni toutes les luttes. Et aujourd'hui le gouvernement québécois est menacé de chute.
Eh bien, si vous voulez, on va écouter maintenant le petit montage que Pascal a concocté d'après ce que nous a envoyé Eddie. Vous allez voir que si vous pensiez qu'Eddie parlait très vite, les Québécois sont encore beaucoup plus forts. Donc on écoute un petit montage sur Québécois sur cette révolution.
Et alors c'est, à la base, c'est une vidéo qui est sur YouTube, qui s'appelle Bref, c'est la révolution au Québec, qui est donc un pastiche d'une série qui s'appelle Bref, que je connais pas très bien. J'ai coupé les passages où il y a les bruits de matraques sur les crânes des manifestants, des trucs comme ça, parce que c'est plus visuel que audio, mais j'ai gardé le principal. Et pour les détails des malversations financières aussi, j'ai coupé parce qu'on comprenait rien.
C'est vrai,
très
c'est
vite.
Bon, il y a l'absurde de Charest quand il dit corruption au lieu de construction.
Ça va hyper vite.
Il a des gros dossiers, lui.
Qu'est-ce que vous allez faire avec les appels aux manifestations, les casseroles, ce qu'on a entendu tantôt concernant...
Je pense qu'on ne peut pas faire autrement qu'interpréter ça comme étant des menaces. Appelons les choses par leur nom.
Et qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit des menaces comme ça?
Un gouvernement ne cède pas devant les menaces.
Bref, nous sommes en l'an 2012, c'est la fin du calendrier Maya, et c'est le bordel depuis que Jean Charest a décidé d'augmenter les frais d'université de 115% au Québec. Mais pour mieux comprendre le présent, retournons dans le passé.
Hello!
1960. L'Église catholique est en charge de l'éducation réservée aux élites fortunées. Seulement 3% des jeunes francophones ont accès à l'université. En 1964, une réforme entraîne la création du ministère de l'Éducation du Québec. Puis en 1968, les droits de scolarité sont fixés à 540 $ par an. En 1976, le Canada adhère à un pacte international stipulant que l'enseignement supérieur doit être rendu accessible par l'instauration progressive de la gratuité. Le gel des prix scolaires perdure jusqu'en 1990 où le TRIP pour atteindre 1668 $ par an sous le régime de Bourassa. En 2003, Charest est élu premier ministre. En 2007, il procède à une augmentation progressive de 500 $, faisant passer ses frais à 2168 $ par an aujourd'hui. Retour début 2012. Charest est au pouvoir depuis 9 ans. Son gouvernement est lié à de sérieuses histoires de corruption dans le domaine de la construction.
D'ailleurs, dans l'industrie de la construction,
est impliqué dans plusieurs projets anti-environnementaux comme le Plan Nord, un méga projet minier qui menace de détruire une grande partie de notre forêt boréale tout en laissant des redevances ridicules pour les Québécois. Soutient l'implantation de 20 000 puits de gaz de schiste dont les forages ont déjà commencé à polluer la nappe d'eau des terres les plus fertiles du Québec. Puis impose une deuxième augmentation qui aura plus que doublé les frais universitaires sur son régime, portant la facture à 3 946 $ par an après la hausse.
Les banques contrôlent maintenant notre gouvernement, ce qui fait qu'il y a un régime de terreur qui tente de mettre ici pour empêcher les étudiants de protester contre une hausse des frais de scolarité.
Notre grève, c'est pas l'affaire d'une génération, c'est pas l'affaire d'un printemps, c'est l'affaire d'un peuple, c'est l'affaire d'un monde. 250 000 personnes, ça sort pas dans la rue parce que ça veut pas payer 1 625 $ de plus.
Juin 2012. Le conflit dure depuis plus de 100 jours et a permis d'attirer l'attention sur des enjeux qui sont bien plus grands que les frais de scolarité. Charest, en perte de contrôle, récidive avec la loi 78, limitant de façon répressive le droit fondamental démocratique de manifester. Son arrogance entraîne une désobéissance massive du peuple en quête de justice, de solidarité et d'équité. La marchandisation de l'éducation est la pointe d'un gigantesque iceberg qui dépasse largement nos frontières. Mais le Québec est debout et les étudiants visionnaires nous auront ouvert la voie. Bref, c'est la révolution au Québec.